Mon ami, bienvenue au programme d'aujourd'hui. Nous parlons de quelque chose qui est extrêmement important. Et nous tirons tout ça de Genèse chapitre 24. Nous avons tiré 6 principes du mariage d'Isaac et Rebecca. Ils sont absolument essentiels pour avoir une relation saine. Alors écoutez, si vous êtes dans un mariage heureux, si vous êtes dans un mariage difficile, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes veuf, divorcé, peu importe, le message d'aujourd'hui est pour vous. Prenez votre Bible et préparez-vous. Bonjour, je suis Bill Esconley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous sommes sur un sujet très intéressant et important. Nous parlons en fait de ce que j'appelle le mariage idéal. Il n'existe pas de mariage parfait. Mais nous avons quelques principes de l'histoire d'Isaac et Rebecca qui en fait indiquent ce qu'un mariage idéal peut et doit être. Je répète, vous pouvez être célibataire, divorcé, veuf, vous pouvez être heureux en mariage ou malheureux en mariage. Vous pouvez ne jamais vouloir vous marier, vous aspirez fortement au mariage. Quel que soit votre statut actuel, quelle que soit la saison de vie dans laquelle vous êtes, il y aura quelque chose dans ce message pour vous. Oui, nous parlons du mariage, mais ces principes transcendent cela. Et pour que ce soit facile à retenir, j'ai utilisé le mot anglais « spouse » comme un acrostiche, chaque lettre représentant chacun des principes que nous trouvons dans la vie d'Isaac et Rebecca. Abraham a envoyé son serviteur dans le pays de sa famille pour trouver une épouse pour son fils Isaac. Et c'était notre première lettre S pour « same faith » en anglais, c'est-à-dire « même foi ». Abraham a dit à son serviteur, « Je ne veux pas que mon fils se marie avec une fille païenne de Canaan. Tu dois retourner au pays de ma famille, de mon peuple, et trouver une femme pour Isaac, mon fils. » Et vous pouvez lire dans Genèse chapitre 20, il y a une petite section avec l'allusion qu'Abraham avait continué à communiquer avec sa famille, même après être parti en obéissance à Dieu pour la terre promise. Il avait gardé le contact et continué de correspondre avec les siens. Et Abraham avait une relation avec le seul vrai Dieu. Vous savez que la communication nécessitait de longs voyages, et les gens du peuple d'Abraham étaient probablement les seuls à avoir une certaine connaissance du seul vrai Dieu vivant. Nous avons découvert que les Écritures nous enseignent en tant que croyants à ne pas être sous un joug étranger avec les incroyants. Une traduction de ce verset dit d'arrêter de former des relations intimes avec les incroyants. Si vous voulez vous marier, vous devez épouser une personne avec une même foi. Vous devez épouser une personne qui aime vos alléluia. Nous avons parlé du fait que nous sommes des êtres trinitaires, l'esprit, l'âme et le corps. Le mariage est la plus haute forme d'accord entre deux personnes. Et donc, pour avoir un mariage idéal, il doit y avoir un accord spirituel. C'est le plus important. Ensuite, sur le plan émotionnel et intellectuel, dans le domaine de l'âme, et troisièmement, dans le domaine physique. Nous avons parlé de ça la dernière fois. Donc, les gens avec une même foi doivent se marier. Écoutez, si vous prévoyez de vous marier avec un non-chrétien, arrêtez-vous. Les Écritures vous disent de ne pas faire cela. Dieu est plus intelligent que vous, mon ami. Si vous êtes vraiment un disciple de Jésus, la chose la plus importante de votre vie devrait être votre relation avec Dieu, votre confiance en ses promesses et la parole. Grandir spirituellement, c'est la chose la plus importante. Et vous devez être capable de partager ça avec un partenaire de mariage. Notre deuxième lettre était P, pour prière. Nous avons découvert que le serviteur d'Abraham, après être arrivé au puits dans le pays du peuple d'Abraham, a prié sincèrement. Le mariage est si important. Il ne devrait pas être fait sans prière. Même si vous avez un petit ami ou une petite amie qui aime Jésus, vous devez prier. C'est très important. Je savais que j'étais appelé au ministère. J'étais appelé à être prédicateur, je le savais. Quand je suis venu à Christ, mes options sur le mariage se sont réduites. Car même si je rencontrais une fille qui aimait Jésus et était chrétienne, elle n'aurait peut-être pas supporté le style de vie d'un prédicateur. Pendant de nombreuses décennies, j'ai voyagé à travers le monde pour poursuivre ma vocation. Nous avons établi notre église, nous avons été pasteurs pendant de nombreuses années. Si vous pensez que c'est facile, eh bien, vous ne l'avez jamais fait. C'est comme une personne disait, « Eh bien, être pasteur d'une église, c'est comme faire une promenade dans le parc. » Je suis d'accord, Jurassic Park. Ce n'est pas une chose facile à faire. Et même si quelqu'un est un croyant, il ne peut pas être fait pour ça. Il peut ne pas être fait pour ça. Ses dons peuvent être incompatibles avec cela. Donc, vous devez prier sérieusement. Et Dieu vous guidera. Notre lettre suivante était O, dans l'acrostiche spouse, O pour others. Et cela signifie autre. Nous avons vu que Rebecca était travailleuse. Elle n'était pas égocentrique. Elle n'était pas paresseuse. Elle avait un cœur pour les autres. Elle avait un cœur de servante. Les gens paresseux font de mauvais partenaires de mariage. Les gens égocentriques font de mauvais partenaires de mariage. Mais les personnes travailleuses, qui font passer les autres en premier, font d'excellents partenaires de mariage. Avant qu'on ne continue, je veux vous demander de réfléchir à tout ça. Très bien. Vous vous connaissez bien. Épouseriez-vous une personne comme vous, avec les mêmes valeurs que vous, avec la même éthique de travail que vous, qui a le même tempérament que vous, qui a votre degré d'égocentrisme? Serait-ce un grand honneur et un grand privilège pour vous d'être marié à quelqu'un comme vous? Aimeriez-vous passer le reste de votre vie avec quelqu'un comme vous? Si vous avez la moindre hésitation en répondant à cette question, vous savez probablement quels sont les domaines sur lesquels vous devez commencer à travailler. Mais un bon partenaire de mariage est quelqu'un qui pense aux autres. Nous arrivons à la lettre suivante de notre acrostiche. Et c'est la lettre U pour le mot anglais undefiled, qui signifie pur. Par pur, je veux dire moralement pur. L'Écriture dit ceci dans Genèse chapitre 24, verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Écoutez, il est possible de rester propre dans un monde souillé. Peut-être vous étiez très plongé dans l'immoralité sexuelle avant de venir à Christ. Très bien, Dieu merci, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ou peut-être que vous avez tout gâché depuis que vous êtes venu à Christ. Eh bien, le sang de Jésus nous purifie encore de tout péché. Et vous devez prendre la décision de vivre dans la pureté et la sainteté et de vous préserver sexuellement jusqu'au mariage. Je sais que cela va contre la culture moderne. Nous vivons dans une génération hypersexualisée. La pornographie, les images impudiques sont facilement accessibles, même pour les plus jeunes. Et les impudiques sont présentés comme des héros. Que ce soit Hollywood qui le fait, ou les films ou la télé, on a des héros qui sont généralement très actifs sexuellement, avec plusieurs partenaires. Et les gars voient ça comme une conquête. C'est un homme vraiment viril. Et les femmes regardent la fille qui vit le débridement. Vous savez, Dieu est plus intelligent que nous. Et nous devons être moralement purs. Si vous êtes un chrétien et que vous voulez vous marier, écoutez, gardez-vous. Si vous êtes sexuellement actif, arrêtez. Dites simplement à votre fiancé, « Écoute, ce n'est pas bien, ce n'est pas la voie de Dieu. Nous devons nous abstenir et vivre correctement. Vous honorez Dieu en faisant ça. » Je me souviens d'un gars qui est venu à l'église une fois. En fait, il était venu avec sa petite amie. Et c'était un motard hors la loi. Et il n'était pas un amateur, c'était un vrai motard. Il était garde dans la mafia pour les affaires de drogue. Son nez avait été cassé dans des bagarres Maintes fois, il est entré dans l'église avec un grand couteau sur lui. C'était un garçon brutal. Et il a rencontré Jésus dans notre église et a été radicalement sauvé. En fait, sa petite amie avait dit, « Écoute, je retourne à l'église. » Il s'avère qu'elle était une chrétienne qui s'était détournée de la foi pour vivre avec lui. Et elle a dit, « J'en ai eu ras-le-bol. » Parce que de telles choses m'arrivaient tout le temps. Il y avait une fête chez nous. Certains invités m'ont cloué au sol, et l'un d'eux m'a mis un pistolet dans la bouche. Et elle a dit, « Quand je me suis enfui, je me suis caché sous l'évier. Et j'ai fermé la porte, et je me suis recroquevillé sous l'évier, et j'ai pensé, « Oh Jésus, aide-moi. Qu'est-ce que ma vie est devenue? Je vais retourner à l'église. » Et le lendemain, elle a dit à son petit ami, « Écoute, je retourne à l'église. » Et il a dit, « Eh bien, je t'accompagne. » Il est venu et il a été sauvé. Et elle a reconsacré sa vie à Christ. Donc, vous imaginez d'où il venait. Ils vivaient ensemble dans une petite maison. Et nous ne leur avons rien dit. Nous les aimions simplement. Ils venaient, s'asseyaient et ils pleuraient comme un bébé à chaque culte. Et un jour, je suis monté dans le bureau. Je l'ai trouvé assis dans le bureau et il pleurait. Il était en larmes et la secrétaire qui était présente m'a regardé toute confuse. Je l'ai appelé, il est venu dans le bureau tout en sanglotant. Il a dit, « Pasteur, je ne sais pas quoi faire. » Il a dit, « Ma petite amie et moi, nos vies ont été changées par Jésus. On vit ensemble. » On vivait ensemble quand on a donné nos vies au Seigneur. Et j'en suis venu à comprendre, en lisant la Bible, que ce n'est pas la voie de Dieu, que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais nous n'avons pas assez d'argent pour avoir deux logements. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux faire ce qui est bien, je veux faire ce qui est juste. Je lui ai dit, même si les choses sont difficiles, vous devez faire quelques pas et Dieu fera le reste. Et il l'a effectivement fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à un ami s'il pouvait vivre dans son garage. Et il y avait un vieux canapé dans le garage. Et pendant les 3, 4 ou 6 mois suivants, peut-être plutôt 5 ou 6 mois, il a dormi sur un canapé dans le garage de son ami pendant que sa petite amie, devenue fiancée, avait la maison. Et quand ils se sont mariés, je les ai mariés. Ils sont restés purs quand ils ont découvert ce que Jésus voulait. Mon ami, il y a une issue. Écoutez, fille, il y a une issue. Écoutez, monsieur, il y a une issue. Vous devez aimer Jésus davantage. Soyez moralement pur. Très bien, nous arrivons à notre prochaine lettre. Et c'est la lettre S pour l'anglais selection, qui signifie choix. Même dans la culture antique, il était de coutume que le père donne sa fille en mariage sans son consentement. Si cela améliorait le statut économique de la famille, si cela améliorait leur statut dans la communauté, ou si cela permettait de renforcer les liens politiques ou militaires, les filles étaient données en mariage et elles n'avaient rien à dire à ce sujet. Elles n'avaient aucun choix en la matière. Mais dans le cas de Rebecca, et du serviteur d'Abraham, qui était chargé de trouver une femme pour Isaac, voici ce que Abraham dit. Abraham dit à son serviteur, « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. » C'est dans Genèse, chapitre 24, verset 8, en d'autres termes, le serment de trouver une fille pour son fils Isaac. Par la suite, après avoir reçu la proposition de mariage, la famille de Rebecca lui parle dans Genèse, chapitre 24, versets 57 à 58. « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Même ici, dans la culture occidentale, il n'est pas rare que les parents fassent pression sur leur fils ou sur leur fille d'épouser une certaine personne ou une personne qui a une certaine carrière. Et il n'y a rien de mal à vouloir quelqu'un qui s'occupera bien de votre fille. Vous ne voulez pas que votre fille épouse un gars qui perd facilement son boulot. Dans le jardin, Dieu a donné un travail à Adam avant de lui donner une femme. Donc les gars, vous devez avoir un travail avant de trouver une femme. Et les filles, avant d'accepter un mari, assurez-vous qu'il a un travail. Il n'y a donc rien de mal à ça. Mais parfois, même dans la société occidentale, et je sais qu'il y a d'autres régions dans le monde où il y a des mariages arrangés, et je vais mettre ça de côté pour l'instant. Mais dans ce cas, Rebecca a eu le droit de sélection, le droit de choisir librement. Et puis, la dernière lettre de notre acrostiche, notre mot est spouse, S-P-O-U-S-E, E est pour émotion. Le mariage d'Isaac et Rebecca n'était pas une simple question de convenance. Il était fondé sur l'amour. Il était aussi émotionnel. Genèse, chapitre 24, verset 67, dit ceci. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Savez-vous qu'Isaac n'a jamais pris une seconde femme, même si c'était la coutume à l'époque? Il est resté fidèle à Rebecca, et Rebecca lui est restée fidèle. Il y avait de l'amour dans leur mariage. Ce n'était ni par formalité, ni par intérêt économique. Il y avait réellement de l'amour. Leur relation était émotionnelle. Alors, tomber amoureux, c'est facile. En fait, c'est facile de tomber amoureux de la mauvaise personne. En effet, j'ai été amoureux plusieurs fois dans ma vie. J'ai été amoureux quelques fois avant d'être sauvé. Et je pense que j'ai été amoureux après avoir été sauvé, mais je n'ai jamais fini par épouser ces filles. Vous pouvez tomber amoureux de la mauvaise personne, ce n'est pas une chose difficile. Il peut y avoir une montée d'endorphines, et vos émotions peuvent monter en flèche. Mais vous savez quoi? Le sentiment d'amour s'estompe. Je suis tombé amoureux de ma femme actuelle, Janet. Et en vérité, je suis toujours amoureux de ma première femme, ma seule femme, Janet. Nous sommes mariés depuis 41 ans, et je l'aime. Mais écoutez, l'émotion qu'on ressent lorsqu'on tombe amoureux s'estompe, c'est-à-dire qu'il diminue, il s'estompe en ceci, qu'il devient plus profond, plus mature et subtil. Et donc, en vertu de sa maturation, l'amour que j'ai eu dans mon cœur et dans mon âme pour ma femme Janet a grandi. Et cela m'empêche de tomber amoureux de la mauvaise personne. Je ne tomberai pas amoureux d'une autre personne parce que j'ai maintenant un amour plus profond, plus solide, plus important pour ma femme, Janet. Donc, être amoureux, c'est l'explosion qui commence la relation. Mais cet amour plus profond, plus mature, c'est le moteur sur lequel le mariage fonctionne. Je pense que c'est brillant. Et cela s'est avéré réel dans mon expérience. Le mariage, ainsi que beaucoup d'autres relations dans la vie, peuvent être assez difficiles à gérer parfois. Si c'était facile, tout le monde pourrait le faire, et ils auraient une étoile en or près de leur nom. Mais ce n'est pas toujours facile, et tout le monde n'est pas toujours prêt à faire des efforts et à travailler. Avoir un bon mariage, avoir un mariage réussi, nécessite l'effort et la compréhension. Avoir des relations, des amitiés, des bonnes relations de travail nécessite des efforts. Mais ça vaut la peine. Il n'y a rien de plus important dans le monde que notre relation avec Dieu. Elle surpasse toutes nos autres relations. La seconde relation la plus importante est la relation de mariage. Et Dieu nous aidera à gérer ces relations. Il nous donnera la sagesse. Il nous donnera les étapes à suivre afin de bien gérer ces relations. Donc, je veux vous encourager maintenant. En fait, je veux prendre une minute ou deux pour prier pour vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Vous avez traversé un divorce. Vous avez peut-être l'impression d'être un jouet cassé et irréparable. Vous n'êtes pas irréparable. Votre vie n'est pas irréparable. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu vous aime et il veut vous aider. Le fait que vous écoutez ma voix en ce moment est un signe que Dieu vous entend, qu'il vous voit et que vous êtes important pour lui. Et oui, vous avez peut-être fait quelques horribles erreurs dans votre vie. Dieu a toujours un plan pour vous. Peut-être que vos enfants se sont éloignés de vous à cause de certains des mauvais choix que vous avez faits. J'ai parlé à un ami récemment dont le père a quitté sa mère quand il était petit garçon. Et son père ne se souciait pas du tout de lui. En fait, il me racontait comment il a contacté son père et son père lui a répondu par un intermédiaire en disant « Je ne suis pas intéressé par une relation avec toi. » Eh bien, vous savez quoi? Ça peut faire mal. Mais mon ami Jésus est le guérisseur des cœurs brisés. Et il est le guérisseur des relations brisées. Et il veut guérir, et il veut vous guérir et vous aider dans votre vie. Père, je prie en ce moment pour la personne qui me regarde, pour la fille désespérée et brisée. Je prie pour que tu lui tendes ta main invisible d'amour par ton Saint-Esprit, Seigneur. Prends son cœur fragile et brisé et rends-le entier. Au nom de Jésus. À ceux qui ont des difficultés dans leur mariage, Dieu, je prie pour que la grâce se déverse dans leur vie, que la grâce se déverse dans leur famille. Pour ceux qui n'ont plus de contact avec leurs enfants, je te demande d'envoyer des ouvriers, ô Dieu, sur le chemin de leurs enfants et de tourner leur cœur vers toi, de tourner leur cœur vers la maison. Seigneur, je te demande de donner la sagesse à ceux qui la demandent vraiment, afin qu'ils puissent gérer avec succès la relation du mariage et les autres relations dans leur vie, qu'ils aient la sagesse pour bien gérer ces relations. Mon ami, je veux terminer en vous disant ceci. Vous êtes important pour Dieu. Peut-être que personne dans votre entourage ne vous le dit, mais je veux vous le dire. Vous êtes aimé. Dieu vous aime. Dieu vous voit. Il ne vous a pas délaissé. Il ne vous a pas abandonné. Il a des projets pour votre vie. Il veut une relation avec vous. Et cela ne peut se faire qu'à travers son Fils Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes tous coupables devant Dieu à cause du péché. Mais en fait, les Écritures disent que le monde entier est coupable devant Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans notre péché. Il ne nous a pas laissés nous vautrer dans notre péché. Il a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Il a envoyé un sauveur. Son propre Fils, qui est né d'une vierge, a vécu une vie sans péché, a fait des miracles, a guéri les malades et nous a révélé Dieu comme un être qui n'est pas distant, indifférent, mais qui est compatissant, un père proche et attentionné. Et Jésus a été pris par des méchants et jaloux, a été soumis à un procès de façade pour être crucifié par la suite. Et là, suspendu sur cette croix, le péché du monde a été mis sur lui. Il est devenu notre substitut. Et la punition justifiée de Dieu pour le péché du monde, pour notre péché, a été infligée à Jésus-Christ. Et il est devenu notre substitut. Et il est mort sous le poids et la peine de nos péchés. L'Écriture dit que son âme a été donnée en sacrifice pour le péché. Je ne pense pas que nous puissions vraiment cerner la profondeur de ce que Christ a fait pour payer pour nos péchés. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et après 3 jours et 3 nuits, les requêtes de la justice éternelle de Dieu ayant été satisfaites, l'Esprit de Dieu est descendu dans les profondeurs de la terre et a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il s'est levé victorieux comme le Seigneur de victoire, victorieux du péché, de la mort, de l'enfer et du tombeau. Et la Bible dit que si vous mettez votre confiance en ce Sauveur ressuscité et le confessez comme Seigneur, vous serez sauvés. Vous entrerez dans une relation avec Dieu et cette relation s'appelle le salut. Priez avec moi maintenant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Oh Dieu », dites-le à haute voix, dites « Oh Dieu, je place ma confiance en ton Fils Jésus maintenant ». Dites ça à haute voix, « Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, allez-y, dites-le, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je remets entre tes mains, Jésus, là où tu me conduis, j'irai. En ton nom, je prie. Amen. » Bonjour, mon cher ami. Si je pouvais, je m'assiérais avec vous dans votre cuisine. J'aurais aimé que vous nous fassiez une bonne tasse de thé et j'aurais aimé m'asseoir et partager cette tasse de thé et m'entretenir avec vous sur des choses qui se passent dans votre vie, sur les difficultés que vous rencontrez, puis prendre quelques minutes pour prier, parler des promesses de Dieu et la grandeur de Dieu et ce qu'il peut faire et ensuite prier. Ce n'est pas possible, considérant le nombre de personnes qui visionnent. Donc, je ne peux que vous dire que Dieu vous aime et qu'il vous voit. Je veux vous demander quelque chose, si ces programmes, si ces émissions ont été d'une manière ou d'une autre une bénédiction pour vous, et j'espère que c'est le cas. J'espère que c'est pour ça que vous regardez. Pourriez-vous nous aider, et par nous, je veux dire toute notre équipe ici qui s'occupe des articles, pourriez-vous nous aider à transmettre cette parole, ces programmes dans d'autres régions du monde? Pour l'instant, nous diffusons dans de nombreuses langues et régions. Je vous demande donc de prier pour être notre partenaire de prière et un partenaire financier aussi. Veuillez prier à ce sujet, puis répondez. Faites-le maintenant, au nom de Jésus.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.